Nous recevons le professeur Philippe Sansonetti. Le professeur Philippe Sansonetti est microbiologiste, clinicien dans le domaine des maladies infectieuses et, il le dit lui-même, chercheur par goût. Il est à ce titre directeur de l'unité de pathogénie microbienne moléculaire et de l'unité INSERM 389 à l'Institut Pasteur et professeur à l'Institut Pasteur. Il est spécialiste des maladies infectieuses et parasitaires et il effectue des recherches sur les mécanismes moléculaires et cellulaires de l'invasion des muqueuses par les bactéries et parasites pathogènes. Il s'intéresse aux mécanismes d'invasion et de destruction du tube digestif par ces pathogènes et au développement de vaccins contre les maladies diarrhéiques. Il est président du comité scientifique du Programme national de recherche fondamentale en microbiologie, maladies infectieuses et parasitaires, et également président du comité de pilotage pour le développement des vaccins entériques à l'Organisation mondiale de la santé. Il a reçu en 1994 le prix Louis Jeantet de médecine, qui est la plus haute distinction européenne dans le domaine de la biologie, et en 1997 le prix Robert Koch, qui est la plus haute distinction en Allemagne dans le domaine de la biologie également. Il a publié de nombreux articles, dans des revues scientifiques et est également éditeur de journaux scientifiques dans le domaine de la microbiologie moléculaire et cellulaire. Professeur Philippe Sansonetti, je vous cède donc la parole pour 50 minutes. Je vous remercie.
Bien, merci. Oula. Merci, monsieur Leroux, pour cette très gentille introduction. Après tout ça, tout ce que vous pouvez ressentir maintenant, c'est de la déception. Ce que je vais essayer de vous faire, les maladies infectieuses en 45 minutes, c'est une gageure. Je vais essayer essentiellement de prendre un certain nombre d'éléments qui vous permettront peut-être de trouver des pistes ou des traces pour mieux interpréter en particulier ce que vous entendez au jour le jour sur l'émergence des maladies infectieuses, le développement des maladies infectieuses, vous permettre peut-être de comprendre un peu mieux ces phénomènes et aussi faire agir un peu plus votre esprit critique sur la situation. J'ai intitulé cette conférence Les maladies infectieuses, retour vers le futur. Et vous verrez peut-être à la fin la signification exacte de ce sous-titre que je lui ai donné. En fait, si on réfléchit un tout petit peu sur le passé, les grandes infections ou les grandes endémies infectieuses dans nos régions, dans notre pays même, c'était hier. Lorsque vous naissiez à la fin du 19e siècle, voire même au début du 20e siècle, vous aviez une chance sur deux en tant qu'enfant d'atteindre l'âge adulte. L'espérance de vie était de l'ordre de 35 à 40 ans, et tout cela était lié aux maladies infectieuses, en tout cas pour l'essentiel. Et la deuxième diapositive, en fait, vous montre, et peut-être même certains d'entre vous étaient déjà nés à cette époque, la dernière épidémie de peste à Paris date de 1920. Vous voyez le genre de taudis dans lesquels certaines personnes, malheureusement, pouvaient vivre. On l'appelait la peste des chiffonniers. C'était quand même hier, comme je vous l'ai dit au début. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Bien sûr, on voit moins de maladies infectieuses, on meurt moins de maladies infectieuses. Vous avez vu, bien entendu, l'allongement de la durée de vie, de l'espérance de vie des Français, qui augmente même en ce moment de 3 mois tous les ans. C'est absolument impressionnant et, encore une fois, en grande partie lié à l'hygiène et à la disparition de ces maladies. Ceci dit, les pathologies infectieuses restent à l'heure actuelle un élément extrêmement important en matière de morbidité, bien entendu, mais aussi de mortalité au niveau de la planète. Et je vous ai mis ici un certain nombre de chiffres clés que vous pouvez garder éventuellement en tête. À l'heure actuelle, un tiers de la mortalité observée actuellement sur la planète est liée à des maladies infectieuses, c'est-à-dire environ 15 à 17 millions de décès par an, chiffre énorme. Bien entendu, et c'est la tendance malheureusement actuellement, ces maladies se retrouvent essentiellement dans les pays en voie de développement, plus de 90%, dans des régions bien entendu où l'hygiène, à la fois personnelle et générale, laisse très largement souvent à désirer. Ceci dit, et c'est ça qui motive un petit peu la renaissance de l'intérêt pour les maladies infectieuses, on voit très régulièrement émerger ou réémerger, même dans nos régions, c'est-à-dire dans les pays industrialisés, des pathologies infectieuses, et si l'on prend les chiffres officiels de réapparition de certaines de ces pathologies, on s'aperçoit que depuis ces 15 dernières années, l'augmentation va de l'ordre de 10 à 20%. C'est-à-dire qu'on revoit de nouveau, et on reviendra là-dessus bien entendu, pour essayer d'analyser ce mécanisme des processus infectieux, même dans nos régions. Alors quelles sont les grandes maladies tueuses à l'échelle de la planète, bien entendu ? Ce sont d'abord et avant tout les maladies respiratoires, 3-5 millions de décès par an avec la tuberculose, la rougeole, les infections à pneumocoque. Ça, c'est vraiment, en termes de pathologie respiratoire, ce qui prédomine. Ce sont les maladies diarrhéiques, on ne le sait pas assez souvent, de l'ordre de là, 3 à 4 millions de décès par an, les rotavirus, la dysenterie bacillaire, la shigellose, le choléra, des colibacilles qu'on appelle entérotoxinogènes, la fièvre typhoïde, tout ça, ce sont des maladies qui existent, qui persistent et qui tuent encore de très nombreux individus sur la planète. Le paludisme, bien entendu, probablement 2 à 3 millions de décès par an et une certaine stabilité qui est très inquiétante. Et le sida qui est en train de prendre sa place et je dirais presque sa première place parmi les pathologies infectieuses à l'heure actuelle avec 1 million et probablement plus à l'heure actuelle de décès par an. Encore une fois, deux éléments importants à prendre dans ces chiffres. Premièrement, les victimes principales sont les enfants, les jeunes enfants. 11 millions de décès de maladies infectieuses surviennent chez des enfants de moins d'une dizaine d'années. Et bien entendu, le fait que la plupart de ces pathologies, encore une fois, surviennent dans les pays en voie de développement. Ce que l'on ignore, et on y reviendra, c'est que 16% des cancers sont d'origine infectieuse, offrant là une possibilité de prévention en matière de certains cancers tout à fait intéressante. Alors, de tout temps, les maladies infectieuses ont existé, et là, je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit, sur la planète. La peste, la syphilis, le choléra, la tuberculose, la variole, la diphtérie, la grippe, tout ça, ce sont des termes, des noms de maladies qui vous sont parfaitement familiers. Tout ça a existé, et tout ça a existé jusqu'à un cinquantenaire absolument spectaculaire, qui a commencé, je dirais, aux alentours de 1890, et qui a duré jusqu'à 1940. Ce que je vous ai marqué ici, un demi-siècle extraordinaire. C'est dans ces cinquantaines dorées que sont arrivées les principales découvertes en matière de pathologie infectieuse. Tout d'abord, les découvertes de la cause infectieuse des maladies, avec ses conséquences majeures sur l'hygiène, sur la mise en place de la sepsie dans les hôpitaux, sur les bases de la vaccination, et ça, c'est bien entendu le legs scientifique phénoménal de Pasteur et de son école. C'est aussi l'identification des bactéries responsables des maladies, mais plus que ça, leur isolement, leur identification, leur culture et la reproduction expérimentale du processus infectieux. Et ça, c'est le legs scientifique de Robert Koch et de son époque. Ces deux géants ont changé totalement le paysage en quelques années. Et puis, par la suite, les choses se sont embrayées très, très rapidement. C'est la reconnaissance du système immunitaire anti-infectieux par Metchnikoff, Ehrlich, Bordet, Behring. Et d'emblée, la mise en présence de cette reconnaissance de la microbiologie infectieuse et des défenses immunitaires qui va permettre la conception et la mise au point de vaccins. Et ça va être, bien entendu, la première génération des vaccins modernes qu'on connaît, qu'on utilise encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire les anatoxines tétaniques ou diphtériques pour le vaccin antitétanique, antidiphtérique, le BCG. Et ça, ce sont encore les travaux de l'école pasteurienne avec Ramon pour les anatoxines et Calmette et Guérin, bien entendu, pour la mise au point du BCG. On va rentrer très rapidement aussi dans le domaine des maladies parasitaires. Et c'est en particulier la contribution, bien sûr, de Lavran pour la découverte du micro-organisme, du protozoaire responsable du paludisme, Plasmodium, et les mécanismes de transmission des maladies infectieuses par des insectes vecteurs. Ce sont les travaux de Charles Nicol. Tout ça, ce sont des composants essentiels de la pathologie infectieuse. Les micro-organismes, les défenses immunitaires, les vecteurs, tout ça se met en place en quelques années et le schéma émerge qui va permettre éventuellement des interventions. Et puis très rapidement, dans la fin de ces 50 années extraordinaires, on va déboucher, bien entendu, au-delà des vaccins sur la thérapeutique. Et ça va être, à partir de 1935, la découverte, puis l'utilisation des sulfamides par Domac. Et bien entendu, le mot magique, la pénicilline, la découverte de la pénicilline par Fleming. Mais il y a d'autres découvertes dont on parle moins et qui vont avoir un impact essentiel à la suite de cette époque. C'est par exemple la mise au point des cultures cellulaires par Alexis Carrel, qui vont vraiment ouvrir la période de la virologie moderne et éventuellement à terme de la virologie moléculaire. Alors parmi toutes ces personnes, toute cette liste de savants, comme on disait à l'époque, qui ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de ces systèmes, je pense qu'on peut véritablement donner crédit à deux d'entre eux, et je les ai déjà cités. Le premier, c'est Pasteur, bien entendu. Louis Pasteur, c'est la découverte, la mise en évidence et la démonstration définitive de la cause infectieuse des maladies et les développements très rapides, bien entendu, sur les processus, par exemple, d'atténuation des micro-organismes pour la mise au point de vaccins. Et ça, bien entendu, dans ce tableau d'Edelfeld, c'est la peinture classique de Pasteur regardant cette moelle de lapin en cours de dessiccation pour atténuer le virus de la rage et mettre au point finalement le premier vaccin de cette nature qui sera le vaccin antirabique. L'autre géant, je dirais, de cette époque, c'est Robert Koch. Et pour ne prendre qu'un exemple de la contribution de Robert Koch, pour ceux d'entre eux pour qui ça ne serait plus familier, la grande découverte, c'est la découverte du bacille de la tuberculose. Vous voyez ici le bacille de la tuberculose au sein de cellules de l'expectoration d'un patient tuberculeux. Tous ces bastonnets rouges ici sont des bacilles tuberculeux. Et la culture, la première culture de ce bacille tuberculeux, qui va permettre, le micro-organisme étant identifié, la mise en place des systèmes de diagnostic, des systèmes d'analyse de la physiopathologie, c'est-à-dire de la maladie que va causer le bacille tuberculeux, et bien entendu permettre tous les développements modernes que vous pouvez connaître à l'heure actuelle. Alors, la contribution de Koch et de Pasteur, d'ailleurs, pour être très franc en matière de pathologie infectieuse, va permettre d'aboutir à un certain nombre de postulats qui guident encore la façon dont nous raisonnons pour étudier les mécanismes des maladies infectieuses. Et ce qu'on appelle classiquement les postulats de Koch, ce sont vraiment trois exigences primaires qui nous paraissent peut-être évidentes maintenant pour assurer qu'un micro-organisme est pathogène et cause une maladie infectieuse. Tout d'abord, il faut que ce micro-organisme soit retrouvé chez tous les malades présentant l'infection donnée, sa distribution dans l'organisme correspondant aux lésions qui sont observées au cours de cette maladie. Ce micro-organisme doit pouvoir être cultivé hors de son hôte, en culture pure, durant plusieurs générations, et le micro-organisme ainsi isolé doit pouvoir reproduire la maladie chez d'autres animaux. Il y a des exceptions, il y a des difficultés, mais pour l'essentiel, ces critères auxquels sont venus ensuite s'associer la réponse immunitaire et son analyse, c'est-à-dire l'élévation significative du taux des anticorps dirigés contre ces micro-organismes, qui doit être observé à la phase de convalescence de la maladie. Tout ça guide encore, consciemment ou inconsciemment, la façon dont nous raisonnons dans l'analyse de développement des maladies infectieuses. Alors, à partir de ces 50 années absolument extraordinaires, on est rentré dans une période de l'analyse, de la compréhension et je dirais du vécu par rapport aux maladies infectieuses, dans une période extrêmement optimiste que j'ai appelée la grande illusion. Et cette grande illusion, elle a duré de 1940 à 1970. Tout d'abord, on a vu rapidement chuter la mortalité causée par les maladies infectieuses, et je vous ai parlé d'emblée au début de ma conférence de l'impact qu'avaient les maladies infectieuses sur l'espérance de vie de la population, avec un allongement de la durée de vie, malgré le deuxième conflit mondial, malgré les très très difficiles périodes qu'ont connues les populations européennes de l'après-guerre, par exemple. On va aussi très rapidement, au-delà de la découverte de la pénicilline, découvrir de nouvelles molécules antibiotiques, de nouvelles familles de molécules antibiotiques. On va découvrir très rapidement la streptomycine et ses dérivés. On va découvrir très rapidement un certain nombre de molécules comme les tétracyclines, comme les macrolides. Tout ça, ce sont des antibiotiques que vous connaissez et qui sont encore utilisés à l'heure actuelle. Donc là aussi, une période d'optimisme liée aux grandes découvertes scientifiques. On va mettre au point la deuxième génération de vaccins. On va voir apparaître le vaccin contre la coqueluche, contre la poliomyélite, ce qui va permettre d'ailleurs de mettre en place dès le début des années 50 ce qui est encore à l'heure actuelle le calendrier vaccinal, le fameux DT-coq polio. On va voir aussi des progrès spectaculaires dès la fin des années 60 en matière de microbiologie, d'immunologie, de biologie moléculaire, d'amélioration des techniques de diagnostic, de développement des méthodologies épidémiologiques, d'amélioration de l'hygiène et de la médecine préventive. Tout ça nous a mis dans une espèce d'optimisme relativement béat parfois, mais qui répondait néanmoins à une diminution, comme je vous le disais au début, tout à fait spectaculaire et tout à fait brutale de l'impact des maladies infectieuses, à la fois en matière de morbidité et de mortalité. Alors juste pour prendre vraiment deux exemples qui me paraissent illustrer cette période d'optimisme, l'un c'est bien entendu le Penicillium notatum qui est le micro-organisme à partir duquel Fleming puis ses collaborateurs ont pu découvrir, puis extraire, puis produire industriellement la pénicilline. Et vous voyez ici ce petit halo de destruction des micro-organismes sur cette plaque de Pétri qui correspond en fait à la sécrétion par ce pénicillinium de la molécule de pénicilline. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer à changer complètement la face des choses. Et l'introduction de la pénicilline, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a totalement changé la prise en charge du traitement des plaies qui, durant la Première Guerre mondiale, et c'est d'ailleurs ce qui avait sensibilisé Fleming, qui était médecin dans l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale, a permis véritablement de changer totalement le tableau de ces gangrènes épouvantables liées aux surinfections des blessures, pouvaient de nouveau, ou pas de nouveau, pouvaient maintenant être guéris par cet antibiotique. Et l'optimiste était tel que, ce qui prouve que même les grands hommes peuvent parfois se tromper, je cite toujours cette phrase que je vous ai reproduite ici, traduite en français de Sir Alexander Fleming au début des années 50, qui disait « Il y a 25 ans, bien rares étaient les microbes dont on pouvait délivrer le corps humain. Il y en a encore quelques-uns qui nous donnent du fil à retordre, mais ils seront battus avant l'an 2000. Malheureusement, c'est raté. » L'autre contribution spectaculaire de l'approche des maladies infectieuses, ça aurait été, dès 1972, l'éradication totale de la variole. Vous voyez ici le visage épouvantablement détruit d'un jeune enfant par des pustules varioleuses. Probablement, cet enfant devait mourir dans les jours qui suivaient. La variole avait été vraiment endémique sur l'ensemble de la planète jusqu'à cette période. Et ça a été véritablement une aventure extraordinaire qui a consisté à mettre en place sous les auspices de l'OMS à partir des années 60, grâce au vaccin antivariolique, une campagne qui a permis d'éradiquer jusqu'au dernier cas de variole, qui permet même maintenant d'avoir arrêté cette vaccination en espérant que le micro-organisme ne réapparaîtra pas. Il n'y a pas de réservoir animal, ce qui est un des éléments qui a permis de faciliter cette éradication, sauf pour l'instant la folie humaine qui ferait ressortir de certains laboratoires le virus, permettrait éventuellement à la maladie de réapparaître. Donc tout ça, ce sont des aventures absolument extraordinaires, exceptionnelles, qui illustrent très très bien les progrès de la science au service de la prévention et du traitement des maladies infectieuses. Seulement, on est rentré à partir des années 70 dans une période de désillusion. Et l'élément préalable à cette désillusion a été la constatation très rapide, en fait, que les micro-organismes, les microbes, faisaient de la résistance. Les bactéries sont en fait devenues très très résistantes aux antibiotiques, et d'ailleurs les staphylocoques, pour lesquels l'arrivée de la pénicilline avait été vraiment un progrès spectaculaire dans les années 40, dès la fin des années 40 ont commencé à présenter des souches résistantes qui posaient d'ores et déjà des problèmes en milieu hospitalier. Donc les bactéries deviennent résistantes, voire multirésistantes aux antibiotiques, soit par la sélection sous la pression de l'antibiotique de mutations, par exemple dans des protéines, dans des gènes codant pour des protéines bactériennes sont nécessaires à l'import de l'antibiotique dans la bactérie. Il suffit d'une petite mutation, d'un petit changement dans cette protéine pour que l'antibiotique ne rentre plus et que la bactérie devienne résistante. Soit par le transfert de gènes d'une bactérie à l'autre, qui va permettre à cette bactérie de résister, par exemple parce que ce gène code pour une enzyme qui va dégrader, qui va détruire cet antibiotique. Alors pourquoi est-ce que ce phénomène d'apparition de résistance nous est arrivé aussi rapidement ? Probablement parce que ces antibiotiques ont été mal utilisés. Et ils l'ont été mal à la fois dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine de l'élevage, par exemple. On s'est très rapidement aperçu que l'administration d'antibiotiques à du bétail permettait à ce bétail de gagner du poids, parfois 15, 20, 30% de poids en viande. Et donc il y a eu un usage immodéré pendant plusieurs années des antibiotiques qui ont permis, au niveau de l'ensemble de la flore de ces animaux, et donc, vu le contact avec les humains, la transmission, d'aboutir l'apparition ou à l'émergence de micro-organismes résistants. L'usage mal maîtrisé des antibiotiques en médecine humaine, bien entendu, et ça, vous êtes tous au courant de ces problèmes, particulièrement en milieu hospitalier, qui représente un site à risque, éventuellement, pour l'utilisation des antibiotiques, bien entendu. Le mauvais suivi de certains traitements antibiotiques, en particulier la tuberculose dans les pays en voie de développement ou dans les zones qu'on appelle la nouvelle pauvreté dans les grandes métropoles nord-américaines ou européennes, c'est-à-dire que des traitements antituberculeux insuffisants en dose et en durée vont permettre l'émergence de micro-organismes résistants qui ensuite n'ont que le choix des individus pour aller se développer et s'amplifier. L'autre problème majeur, c'est que depuis 20 ans, il n'y a pas eu une seule nouvelle famille d'antibiotiques découverte dans l'industrie pharmaceutique. Il y a sûrement à cela des raisons et c'est un des éléments dont je vous parlerai à la fin. Les champignons et les levures responsables d'infections graves ne bénéficient que peu de traitements qui combinent à la fois l'efficacité et la bonne tolérance, ici il y a une marge en matière de recherche très très importante, les virus ne bénéficient encore que d'un nombre très limité de molécules antivirales, et les résistances apparaissent, vous avez tous entendu parler bien entendu des apparitions de résistance du virus VIH aux trithérapies, et les parasites eux aussi sont devenus très rapidement résistants pour certains d'entre eux aux drogues antiparasitaires, c'est l'exemple classique du paludisme, du Plasmodium falciparum en particulier devenant résistant à la chloroquine, et leurs vecteurs même, c'est-à-dire les moustiques, les anopheles, qui sont très rapidement devenus résistants aux insecticides, en particulier aux DDT. Donc tout ça, ce phénomène de résistance, va faire que le bel optimisme initial va commencer à être tempéré. Ça, c'est une souche de staphylocoque que vous auriez pu voir dans les années 50, et ça, c'est une souche de staphylocoque que vous voyez maintenant dans les hôpitaux. Vous voyez ici le disque qui contient l'antibiotique qui diffuse dans la gélose, et ces halos très clairs ici correspondent à l'efficacité de l'antibiotique puisque le micro-organisme est incapable de pousser au contact de ces disques. Par contre, ici, vous voyez très bien que la bactérie vient pousser jusqu'aux confins de ce petit disque qui prouve qu'elle est totalement résistante aux antibiotiques, avec quelques exceptions, quelques phénomènes de synergie sur lesquels on essaye de jouer lors du traitement de ces patients, mais néanmoins, je pense que sans être microbiologiste, vous pouvez constater très très facilement la différence, ceci étant encore une fois dû à l'acquisition soit de mutations, soit de gènes transmis, comme on dit maintenant, horizontalement, à partir d'un micro-organisme résistant vers un autre micro-organisme résistant. Alors il y a d'autres éléments qui entretiennent cette désillusion. Le premier, c'est que, en dépit de tous les efforts, les maladies infectieuses et parasitaires restent très prévalentes dans les pays en voie de développement, et qu'il existe de nouvelles maladies infectieuses qui émergent ou qui réémergent, on va revenir sur cette notion, de façon permanente, tant dans les pays en voie de développement que dans nos propres régions, dans les pays industrialisés. Alors je voudrais, parce qu'on parle très souvent d'émergence ou de réémergence, vous donner quelques pistes dans l'interprétation de ces termes qui sont parfois utilisés de façon un petit peu légère. Qu'est-ce que c'est que ce fameux concept d'émergence dont tout le monde parle à l'heure actuelle? En fait, ce sont trois concepts qui sont le plus souvent un petit peu intriqués. Premièrement, il existe véritablement des maladies infectieuses émergentes, sous nos yeux, aujourd'hui, dans notre période. Ce sont des maladies infectieuses classiques, mais qui étaient demeurées très rares, voire des maladies qui sont véritablement nouvelles, dont le micro-organisme causal était préalablement inconnu, et qui apparaissent, qui explosent, qui se développent éventuellement, du fait de conditions socio-économiques, du fait de conditions écologiques, pathologiques nouvelles. En fait, l'homme, souvent, a un rôle important, de façon involontaire, bien entendu, dans l'apparition de ce type de pathologie. C'est le cas, par exemple, du virus Ebola, on en redira un mot, bien que ça n'ait pas pris, heureusement, des proportions phénoménales, des bactéries comme les légionelles, du virus HIV, du virus de l'hépatite C, du virus HHV8, qui est venu dans la suite des déficits immunitaires induits par le virus VIH, etc., etc. On a vu émerger, ces dernières années, des micro-organismes qui étaient auparavant parfaitement inconnus, et c'est en tout cas le cas pour ceux que je viens de vous citer ici. Il y a des maladies infectieuses réémergentes. Ce sont des maladies infectieuses ou des micro-organismes responsables de maladies infectieuses qui réapparaissent généralement à l'occasion de situations ou de conditions socio-économiques, pathologiques ou technologiques nouvelles, mais réapparaissent souvent sous une forme différente, et en particulier sous une forme résistante, voire multirésistante aux agents anti-infectieux. Et c'est en particulier le cas préoccupant des nouvelles formes de tuberculose qu'on a vu apparaître à l'occasion des patients, et vous en avez entendu parler pour ceux qui étaient là hier par le professeur Montagnier, infectés par le virus HIV, mais aussi dans certaines régions, en particulier dans les pays en voie de développement, du fait du mauvais usage des antibiotiques pour les antituberculeux, de forme donc multirésistante. Donc tout ça, c'est de la pathologie connue, mais qui réapparaît en posant des problèmes différents du fait de la multirésistance. Et puis, il y a aussi une catégorie de maladies qui sont tout à fait passionnantes pour le scientifique, qui sont des maladies qui sont de causes infectieuses insoupçonnées, ou qui étaient plutôt de causes infectieuses insoupçonnées, car l'agent n'avait pas pu être identifié. Et on a vu, ces dernières années, véritablement, à l'occasion de pathologies dont on, parfois, ne soupçonnait même pas la cause infectieuse, la mise en évidence de nouveaux micro-organismes, comme Helicobacter pylori, on en redira un mot, qui est responsable de la gastrite ou de l'ulcère de l'estomac, Bartonella hanseli, qui qui est responsable de la maladie des griffes du chat. Personne ne considérait jusqu'à présent que c'était une maladie infectieuse. HHV8, Trophérima whippelii, vous avez des noms un petit peu barbares, j'en suis désolé. Trophérima whippelii est vraiment un exemple extraordinaire de démonstration qu'une pathologie inflammatoire chronique de l'intestin, dont les gastro-entérologues ne pensaient pas une seconde qu'elle pouvait être d'origine infectieuse, en fait était causée par un micro-organisme. Et les techniques de la biologie moléculaire moderne, dans ces différents cas, ont permis de mettre en évidence ces micro-organismes et leurs responsabilités. Alors, la diapositive suivante, si elle veut bien venir. Merci. Inutile de rentrer dans les détails. Simplement, et la liste n'est pas exhaustive, pour vous montrer que depuis 25 ans environ, on a vu émerger toute cette liste de nouveaux pathogènes, de nouveaux micro-organismes, à la fois bactériens, à la fois viraux, à la fois parasitaires, causant des maladies diverses, dont certaines sont parfois de très haut degré de morbidité, voire de très haut degré de mortalité. J'ai mentionné certaines d'entre elles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement la taille de la liste vous donne une perception de ce à quoi nous faisons face à l'heure actuelle en matière de pathologie infectieuse. Alors ce concept d'émergence, il n'est pas nouveau. Il ne faudrait pas croire que c'est quelque chose que l'homme de la deuxième moitié du XXe siècle a inventé. En fait, les maladies infectieuses n'ont jamais cessé d'émerger. Et ce que je vous ai mis sur cette diapositive ici, c'est ça qui fait leur intérêt lorsqu'on essaye d'en analyser la nature et l'histoire, c'est qu'elles ont souvent accompagné les drames humains ou les mutations, les grandes mutations de la société. C'est-à-dire que la peste noire du Moyen-Âge, qui a tué la moitié de la population de l'Europe, je vous le rappelle, quand on s'inquiète de quelques cas d'infection qui prennent des amplitudes médiatiques absolument extraordinaires, il faut de temps à autre relativiser les choses et revenir un petit peu aux racines. La peste noire du Moyen-Âge, qui était probablement liée à l'augmentation du réservoir murin, des rats pesteux au sein des métropoles européennes qui commençaient à grandir à l'époque. La syphilis, qui a explosé à la Renaissance, qui en fait a suivi les armées qui étaient de retour des guerres d'Italie, le choléra, qui est une maladie tout à fait passionnante. En fait, le choléra est apparu à la période des grandes conquêtes, à partir du XVe siècle, dans la mesure où le bassin d'origine du choléra, c'était l'Inde, et donc les marins qui allaient explorer ces terres inconnues, en fait, revenaient, hébergeant le bacille cholérique dans leur intestin, et la maladie se déclarait bien entendu souvent à l'arrivée, d'où la notion de quarantaine qui s'est rapidement mise en place, mais ce sont les grandes conquêtes qui ont amené le choléra en fait, et la première pandémie de choléra en Europe. La tuberculose qui a explosé au XIXe siècle en fait, avait un foyer rêvé de développement, tuberculose se transmettant d'individu à individu par l'expectoration, qui était en fait liée à l'accumulation du nouveau prolétariat urbain qui a commencé à se développer à la fin du XIXe siècle. La grippe espagnole, encore une fois, pour donner des chiffres et relativiser un petit peu les choses, au début du XXe siècle, elle est survenue en 1918. Elle a tué 24 millions de personnes, 24 millions d'individus en quelques mois, à peine une année, c'est-à-dire que la grippe espagnole de 1918 a représenté quatre fois les pertes civiles et militaires de la Grande Guerre. C'est pour, encore une fois, vous donner des chiffres qui, je crois, amènent un petit peu à réfléchir. Et puis, bien entendu, le sida avec trois points de suspension, sans savoir encore très bien jusqu'où, malheureusement, cette épidémie va aller. Et on n'est pas très optimiste pour la situation, en particulier dans les pays en voie de développement. Alors, quelle est la raison de tout ça? Pourquoi est-ce que les maladies ont toujours émergé? Pourquoi est-ce qu'elles émergent encore? Alors, c'est un peu imprudent, probablement, de faire des affirmations aussi lourdes que celles que je vous ai mises ici. Pourquoi y a-t-il et y aura-t-il toujours des maladies infectieuses? Mais il y a probablement des raisons à cela. Et les raisons, j'ai essayé de réfléchir un peu et de vous les mettre sous une forme relativement rationnelle. La première raison, c'est que les micro-organismes nous dépassent de loin, que ce soit les bactéries, que ce soit les virus, que ce soit les parasites, nous dépassent de loin en nombre et surtout en plasticité génétique. Les bactéries, par exemple, qui est le domaine que je connais le mieux, ont une capacité extraordinaire par mutation, mais surtout par ce qu'on appelle un transfert horizontal de gènes, c'est-à-dire par l'acquisition de gènes d'autres espèces bactériennes, de s'adapter à l'environnement, en particulier animal et humain, et éventuellement d'acquérir des gènes qui vont leur permettre d'être pathogènes chez l'homme ou chez l'animal. En fait, il y a quelques dizaines de milliers d'années que la population humaine a atteint un chiffre suffisant pour que cette coévolution des micro-organismes, en particulier potentiellement pathogènes, et de l'homme puisse s'établir et puisse éventuellement s'amplifier, et que la transmission puisse se faire de façon efficace. En plus, le réservoir est large potentiellement, puisque, comme je vous le mets ici, on ne connaît pas même à l'heure actuelle 1% des espèces bactériennes qui vivent sur la planète. Donc on a encore du travail devant nous et des risques d'infection à venir. Et ce que je vous ai mis ici, en fait, c'est qu'à l'échelle de l'évolution de la population humaine et des populations de micro-organismes, les maladies infectieuses et parasitaires ne feront probablement que commencer. Alors il existe toujours, du fait de cette richesse du réservoir microbien à l'extérieur et à l'intérieur d'ailleurs, des possibilités d'adaptation. Il y a toujours un micro-organisme qui va pouvoir s'adapter à une situation donnée. Et on en a entendu parler très récemment avec le cas de Listeria monocytogenes, par exemple. On a beau établir des critères de sécurité alimentaire très stricts, des chaînes du froid, il y a toujours un micro-organisme qui va réussir à se glisser là-dedans, à être adapté à cette situation et éventuellement à pouvoir se développer et donner lieu à une pathologie. Alors je voulais simplement, en deux mots, vous expliquer un peu ces notions de plasticité génétique, en particulier dans le domaine des bactéries pathogènes. Il est très intéressant de voir maintenant qu'on connaît les génomes d'un certain nombre de bactéries pathogènes par rapport au génome des bactéries modèles, de voir ce que ces bactéries pathogènes finalement ont dans leur génome qui les rendent si différentes et qui leur permettent éventuellement de donner des maladies infectieuses, soit à l'homme, soit d'ailleurs à l'animal. Ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est de prendre par exemple l'Escherichia coli, dont le génome a été totalement séquencé, qui fait environ 3,5 millions de paires de bases. Et lorsque l'on prend un Escherichia coli pathogène, c'est-à-dire un Escherichia coli qui donne une maladie chez l'homme, par exemple comme un Escherichia coli qu'on appelle entérohémorragique ou responsable d'infections urinaires, le génome fait 1 million de paires de bases de plus, 4,5 mégabases. Donc, l'intérêt de ces études, telles qu'elles émergent à l'heure actuelle, est de nous montrer que finalement ces micro-organismes, par rapport à un génome qu'on pourrait appeler de base, ont accumulé des gènes qui leur permettent de s'adapter à l'environnement, à des hôtes humains ou animaux, et éventuellement à causer des maladies infectieuses. Alors comment tout ça peut se faire? C'est qu'en fait, ce monde bactérien qu'on commence à connaître, il est lui-même en permanente évolution et il a lui-même ses agents infectieux. C'est-à-dire que, et c'est ce que je vous ai résumé ici en matière de ce qu'on peut appeler la pathogénicité en saut quantique, c'est-à-dire que les micro-organismes pathogènes se sont construits probablement à partir de micro-organismes qui étaient parfaitement anodins, comme en saut chez l'homme, et ont acquis peu à peu des gènes qui les ont amenés à un niveau de virulence, puis de pathogénicité suffisant pour causer des maladies. Et généralement, ces gènes, ils les ont acquis par transfert horizontal, par des éléments génétiques qu'on appelle des transposons, ou des plasmides qui peuvent passer d'une souche à l'autre, ou des bactériophages qui sont d'ailleurs tout à fait passionnants car ce sont des virus de bactéries. Ce sont des virus qui sont capables de passer d'une bactérie à l'autre et lors de ce qu'on appelle la lysogénie, c'est-à-dire l'intégration de ce bactériophage dans la bactérie, dans le génome de la bactérie, de se mettre à exprimer des éléments qui peuvent être des éléments de pathogénicité. Alors, juste pour vous montrer un exemple, une courte liste, de nombreux micro-organismes pathogènes, tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, les salmonelles, le vibrion colérique, le bacille de la diphtérie, un certain nombre d'Escherichia coli causant des infections intestinales ou des infections urinaires, des staphylocoques donnant des toxications alimentaires et éventuellement des streptocoques donnant, par exemple, l'angine ou des états de choc. Tous ces micro-organismes, en fait, expriment ces gènes codant pour des facteurs de pathogénicité car à un moment ou un autre de leur existence, ils ont été infectés eux-mêmes par ce virus, par ces bactériophages, qui leur ont amené ces éléments qui vont leur permettre de construire leur pathogénicité. Et finalement, tel qu'à partir de ce qu'on appelle maintenant la génomique, et surtout les aspects fonctionnels de cette génomique, on arrive à reproduire quasiment de façon virtuelle l'histoire naturelle de la construction d'un pathogène. C'est-à-dire qu'on part d'un micro-organisme qui a un génome de base, c'est le micro-organisme modèle, l'Escherichia coli non pathogène, qui a été étudié dans les laboratoires depuis des années. Et puis on s'aperçoit que ce micro-organisme a reçu, probablement à des étapes successives de son évolution et de son interaction avec l'hôte, des gènes qui sont le plus souvent, encore une fois, arrivés par des bactériophages et qui se sont généralement intégrés et stabilisés dans son génome. Ça n'a pas suffi pour assurer la virulence ou la pathogénicité. Il a fallu mettre tout cela sous un contexte de hiérarchie de régulation qui est souvent extrêmement compliqué, qui permet l'expression de ces gènes à des stades clés du développement de la maladie, pour arriver finalement, peu à peu, à un micro-organisme pathogène qui est parfaitement adapté à une situation donnée pour infecter un hôte et éventuellement détruire certains organes. Donc vous voyez qu'il y a maintenant une meilleure, bien meilleure compréhension de la situation en matière de développement des micro-organismes. L'autre élément, et je montre toujours cette diapositive parce qu'elle est un petit peu historique, sur lequel il faut réfléchir en matière de compréhension des maladies infectieuses, c'est que nous sommes extraordinairement fragiles par rapport aux agents infectieux dans la mesure où nous leur offrons une surface, une interface très très importante. Alors, l'interface, elle est celle que vous imaginez le plus facilement, elle est externe, c'est-à-dire la peau. Et on peut très bien effectivement être infecté par piqûres d'arthropodes, d'anophèles en particulier dans le cas du paludisme, voire être infecté par un accident chirurgical lors de solutions de continuité au niveau cutané. Mais une surface cutanée, ce n'est pas grand-chose, c'est 1,75 m² chez un individu de taille et de corpulence habituelle, ça représente une interface, elle n'est pas énorme. Ce qu'il faut surtout savoir et mesurer, en fait, et ça c'est un élément important quand vous commencez à réfléchir et à rationaliser les bases de l'hygiène, c'est que les 3/4, sinon 80% des infections surviennent au niveau des muqueuses, que ce soit les muqueuses respiratoires, les muqueuses intestinales ou les muqueuses urogénitales. Et je ne sais pas si quelconque d'entre vous a jamais réfléchi à la surface de nos muqueuses. Si nous les aplatissons, l'image n'est pas très jolie, mais si vous les mettez à plat ici, vos intestins, vos poumons, hein, vous arrivez à quelque chose d'absolument extraordinaire qui est la surface d'un court de tennis et demi. C'est-à-dire qu'on offre tous les jours, à l'extérieur, sans le savoir en fait, et donc à des agents infectieux potentiels, une surface d'environ 400 m², à laquelle, bien entendu, des micro-organismes pathogènes vont se faire un plaisir de venir s'accrocher et éventuellement d'engager une infection. Ce qui nous dit d'ailleurs au passage que le système immunitaire qui est associé à ces muqueuses et qu'on avait un petit peu oublié ou un peu étudié ces dernières années est un élément essentiel à étudier et éventuellement à stimuler dans le contexte de nouvelles stratégies vaccinales qui seraient plus adaptées finalement aux défenses locales contre les agents infectieux. Codéfense générale ou systémique, comme on les appelle. Alors, à partir du moment où ces micro-organismes ont réussi à accéder à ces surfaces muqueuses, c'est plus tellement difficile pour eux, ils en sont équipés, je vous ai parlé de gènes, je vous ai parlé de facteurs de virulence, soit de coloniser, soit d'adhérer à ces surfaces, de s'y développer, de les coloniser de façon très intime et de sécréter des toxines, soit même pour certains d'entre eux, d'envahir ces cellules des muqueuses et de traverser la muqueuse à cette occasion pour se disséminer dans l'organisme, donner lieu par exemple à des septicémies, et donc potentiellement à tuer l'individu. Donc c'était quelques éléments de réflexion que je voulais vous donner pour un peu mieux comprendre notre fragilité et étayer un petit peu cette opinion que je vous ai émise un peu fortement, selon laquelle il y aura toujours des maladies infectieuses. Une deuxième raison, c'est l'augmentation de la population de la planète. Et ça, ça va très bien avec ce que je vous ai dit initialement. On sera probablement dans quelques années, dans 10 ou 20 ans, à 10 milliards d'habitants sur la planète. Plus il y a d'habitants, plus il y a de réservoirs potentiels pour les pathogènes. Plus il y a d'habitants, malheureusement, plus il y a de pauvreté, moins il y a d'hygiène. Et donc, là aussi, on a des éléments très simples à prendre en compte pour essayer de comprendre l'accroissement de ces réservoirs et la possibilité de développement, voire d'émergence de maladies infectieuses. Le troisième élément qui est important à prendre en considération et qui est là probablement très souvent un facteur d'émergence, ce sont les modifications écologiques majeures. Vous savez qu'on est rentré dans une période où l'homme influe vraiment sur la planète, on le voit même probablement à l'heure actuelle sur le climat. Donc les modifications écologiques majeures qui sont induites dans certaines régions du globe par l'expansion territoriale, par les villes qui s'élargissent et qui vont amener à finalement souvent une interface très proche avec des zones forestières, par exemple. Tout ça va créer des conditions qui auparavant étaient inexistantes et au cours desquelles, finalement, l'homme va se trouver brutalement en contact d'espèces animales, d'animaux vecteurs, qui vont lui transmettre des micro-organismes qu'en temps normal, il n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer parce que simplement les zones dans lesquelles ils vivaient ne correspondaient pas à la zone de présence de ces micro-organismes. Il est clair que lorsque une ville africaine, par exemple, s'élargit et commence à gagner sur la jungle, on va avoir création de zones d'interface où les animaux vont perdre leur marque, les singes vont descendre du haut des arbres, vont se faire piquer par d'autres vecteurs. Ces vecteurs vont éventuellement amener à l'homme des virus, des micro-organismes qu'en temps normal, ils n'auraient jamais rencontrés. Et simplement pour illustrer cette situation, vous voyez ici, dans des conditions de culture en Asie, par exemple, la frontière très, très, très tracée, presque au cordeau, au couteau, entre cette zone de culture et cette zone forestière, qui va marquer probablement une zone écologique où l'émergence infectieuse peut beaucoup plus facilement s'opérer. Le dernier élément en matière de causes de maladies infectieuses, et je voudrais dire un mot simplement parce qu'il illustre l'absurdité et probablement à certains égards la bêtise humaine, c'est les guerres. On voit malheureusement à l'heure actuelle, et ça, on peut aussi parler d'émergence, de plus en plus de situations de détresse dans certains pays, avec des comportements humains qui génèrent des guerres, des famines, des déplacements massifs de population. Et vous avez vu, vous avez entendu ces dernières années toutes ces créations brutales, rapides, parfois impressionnantes de camps de réfugiés qui amènent une situation sanitaire qui était peu connue jusqu'à présent et qui cause bien entendu des maladies. L'exemple le plus clair et le plus caractéristique ces dernières années, ça a été cette guerre civile dans la région des lacs centraux d'Afrique, au niveau des frontières du Rwanda, du Zaïre ou du Burundi, où on a vu en quelques jours s'établir des camps de réfugiés qui comportaient plusieurs centaines de milliers, presque un million de personnes. Et simplement, pour vous donner un élément de réflexion à l'occasion de ces situations de crise épouvantable, dans la première semaine d'établissement du camp de Vukavu, je crois que c'était celui-là où il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes, le choléra a démarré quasiment immédiatement dans les jours qui ont suivi. Le choléra, c'est une maladie diarrhéique qui peut donner, y compris chez un enfant, des pertes d'eau qui vont jusqu'à 10, 15, 20 litres. Et dans la première semaine d'établissement de ce camp, en l'absence de réserve d'eau potable, cette population n'avait pas plus d'un litre d'eau par jour à sa disposition. Donc vous voyez que tous ces enfants qui ont été atteints du choléra sont morts, car ils n'ont pas pu recevoir le minimum d'eau qui était nécessaire à leur réhydratation pour les sauver. Donc tout ça, ce sont des situations qui sont génératrices de pathologies infectieuses. Et d'ailleurs, la médecine sanitaire est en train de se développer très sérieusement au niveau de la prise en charge des camps de réfugiés, car ça a des spécificités qui sont d'ailleurs tout à fait intéressantes à prendre en matière sanitaire. Alors, d'autres éléments que je voudrais vous donner rapidement, ça pourrait être aussi l'objet de questions, c'est qu'en matière de pathologies infectieuses, en dehors de ces grandes endémies à l'échelle de la planète, que parfois on a un petit peu de mal à maîtriser, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'ennemi, parfois quand même aussi, c'est nous. Et finalement, on parle beaucoup de pathologies infectieuses dans les pays en voie de développement, mais il faut voir que le développement, l'industrialisation elle-même est génératrice de pathologies infectieuses. On le voit, et je crois que ce n'est même pas la peine de l'illustrer ici, à l'occasion des infections d'origine alimentaire, où finalement l'industrialisation de la chaîne alimentaire fournit à des pathogènes l'occasion de rencontrer un hôte humain qu'en d'autres circonstances, ils n'auraient pas touché. C'est l'élevage intensif des poulets, par exemple, qui facilite la transmission de bactéries comme les salmonelles, voire éventuellement ce qui a failli être une catastrophe possible, épidémie de grippe à Hong Kong il y a 2 ans. C'est l'adaptation à la chaîne du froid qui permet à Listeria et Yersinia éventuellement de se développer ultérieurement. Ce sont les préparations industrielles des aliments, particulièrement des viandes, on peut appeler processées, mal cuites, qui ont permis à cette Escherichia coli qu'on appelle O157 ou entéro-hémorragique d'émerger. C'est un colis qui se développe dans ces espèces de morceaux de viande hachée qu'on met dans les hamburgers pour peu que la viande ne soit pas suffisamment cuite. Le micro-organisme va s'introduire dans l'organisme humain et on peut avoir jusqu'à 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard de bactéries par gramme de viande, des chiffres absolument astronomiques qui rendent compte finalement de ce type de situation. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont liés au progrès. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le progrès, ça veut simplement dire qu'il faut faire encore plus attention et être surtout en permanence en alerte. Il y a beaucoup d'infections respiratoires qui sont liées en particulier aux dispositifs de conditionnement d'air, aux circuits de distribution d'eau. Ça a été en particulier la fameuse épidémie de légionellose qui est apparue en 1976 à Philadelphie, essentiellement chez des individus qui avaient un système immunitaire relativement altéré. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, on crée une situation artificielle, c'est-à-dire que légionelle, qui cause cette maladie pulmonaire, se développe naturellement dans l'environnement, dans des amibes, qu'on appelle acanthaméba ou hartmanella. Et puis elle vit là très heureuse, il n'y a pas de problème. Simplement, lorsque, accidentellement, par une vaporisation dans un système d'air conditionné, elle rentre chez l'homme, elle retrouve des cellules chez l'homme qui lui plaisent bien parce que c'est quasiment comme des amibes, c'est ce qu'on appelle les macrophages. Et en fait, elles se développent dans ces macrophages, ayant d'ailleurs été stimulées dans leur pathogénicité lors de leur vie dans les amibes, elles se développent, elles altèrent le poumon, elles donnent la pneumonie et éventuellement la mort du patient. Tout ça, ce sont des situations qui n'existaient pas avant, ou quasiment pas, dans la mesure où ces dispositifs n'existaient pas et donc n'amenaient pas l'homme en contact direct avec ces micro-organismes. C'est ça la base de l'émergence. Alors l'ennemi, c'est nous aussi, mais sans être trop méchant avec nous, parce qu'on ne va pas se passer de voyager pour éviter les maladies diarrhéiques. Il est clair que les échanges internationaux, les voyages facilitent les maladies diarrhéiques, le paludisme, la dengue, les fièvres hémorragiques, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire face. Et la médecine préventive des voyages a pris une place très très importante à l'heure actuelle, que vous connaissez tous. Et les infections liées aux modifications de l'environnement, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. J'ai un peu de mal à passer à la suivante, merci. Alors, l'autre élément qui nous concerne quand même directement, j'en dis deux mots parce que c'est important et on en parle et on en reparlera, ce sont les infections nosocomiales ou infections survenues dans les hôpitaux. Vous savez que chaque année, plus de 600 000 Français contractent des infections pendant leur hospitalisation. La plupart des infections sont bénignes, elles font partie des situations quasiment normales, mais elles n'en constituent pas moins un très grave problème de santé publique. Et un rapport qui a été demandé par le secrétariat d'État à la Santé il y a 3 ans maintenant, il est paru en 1997, a montré que probablement près de 10 000 décès par an pouvaient survenir de façon directe ou indirecte à l'occasion de ces infections nosocomiales. Et si on plaçait ça par rapport aux autres causes de mortalité, c'était la 4e cause de mortalité en France. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement considérable et qu'il faut prendre en considération. Alors, quels sont les facteurs de risque pour ces infections qui surviennent en milieu hospitalier? Tout d'abord, il y a la négligence, la mauvaise formation des personnels, mais ce n'est pas uniquement ça. En fait, il faut savoir que nous sommes très fragiles, surtout lorsque nous sommes hospitalisés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes immunodéprimés, opérés. Donc, nous représentons beaucoup plus facilement une cible pour les micro-organismes pathogènes. Alors, quels sont les facteurs de risque principaux? Ce sont bien entendu les malades qu'on appelle lourds, c'est-à-dire les brûlés, les personnes en soins intensifs, en chirurgie, en hématologie, en cancérologie. Ce sont les gens qui restent hospitalisés très longtemps. Ce sont les gens qui sont à proximité d'autres malades infectés. Lorsqu'il y a une mauvaise adéquation entre la charge de soins et le nombre de personnels qualifiés dans l'hôpital en question, et c'est bien entendu l'utilisation mal maîtrisée des antibiotiques qui fait que ces micro-organismes résistants vont se développer plus facilement chez les individus. Alors, il y a eu de gros efforts de prévention ces dernières années, en particulier avec la mise en place des CLIN, c'est-à-dire les comités de lutte contre les infections nosocomiales dans tous les hôpitaux, mais ça reste une pathologie avec laquelle il faut commencer maintenant à vivre et qui doit être prise en considération très très sérieusement. Ceci dit, quoi qu'on fasse dans les progrès, et beaucoup de progrès sont faits à l'heure actuelle dans ces domaines, il restera probablement un certain pourcentage incompressible. Et juste pour vous montrer une image, ceci c'est un cathéter, c'est-à-dire un élément de vinyle qui a été inséré dans une veine d'un patient pour une perfusion qui est ressorti au bout de 48 ou 72 heures. Et tout ce que vous voyez ici, ces micro-organismes, en fait, dans cette gangue, ce sont des staphylocoques, en l'occurrence ici des staphylocoques blancs, staphylocoques epidermidis, qui en fait sont introduits, puisque c'est la flore normale de la peau, à l'occasion de l'introduction de ce cathéter, et qui se développent, adhèrent à ce cathéter et forment une véritable gangue qu'on appelle en fait un biofilm, qui est un milieu écologique tout à fait passionnant d'ailleurs à étudier, dans lequel les micro-organismes se mettent à vivre en communauté, à la surface de ce cathéter, à l'intérieur de l'organisme, et à passer d'un état de biofilm à un état de plancton, c'est-à-dire de bactéries qui vont se libérer, partir dans la circulation, et donc possiblement donner une infection, et revenir éventuellement se relocaliser. Alors ça, c'est l'aspect pessimiste des choses. L'aspect optimisme des choses, c'est que la compréhension des mécanismes de formation de ces biofilms va probablement permettre assez rapidement de développer des molécules tout à fait innovantes pour interférer avec la vie de ces micro-organismes, sans parler, bien entendu, des nouvelles modalités de traitement de ces corps étrangers qu'on insère et qui empêchent éventuellement le développement de tels micro-organismes. Alors, dernier élément pour bien vous inquiéter, quelque chose... On a un peu tendance dans nos cultures latines à pas vouloir prendre vraiment la mesure des problèmes et des risques. Il y a un vrai problème auquel il faut réfléchir, qui est celui du bioterrorisme. Est-ce que ce sera éventuellement dans le futur la chance supplémentaire de développement d'agents infectieux ? Vous savez qu'il y a encore dans certains laboratoires, très peu, mais ils sont conservés en sécurité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Du virus de la variole, les virus des fièvres hémorragiques, du bacille du charbon, la toxine botulinique, tout ça, ce sont éventuellement des armes de choix pour des États qui ont un programme d'armes biologiques. Il y en avait 11 au début des années 90, ainsi qu'éventuellement des groupes terroristes. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. On ne sait pas ce que sont devenus les énormes stocks d'armes biologiques qu'avait mis en place l'Union soviétique au bon vieux temps de la guerre froide. On ne sait pas si l'Irak a véritablement cessé, même avec les contrôles de l'ONU, son programme sous la pression des alliés. On ne sait pas finalement si un jour un État prendra l'initiative d'utiliser ce qu'on appelle maintenant l'arme nucléaire du pauvre, c'est-à-dire des micro-organismes éventuellement modifiés, lâchés comme ça à titre d'action de guerre. En fait, ce qui semble plus inquiétant et qui inquiète beaucoup en particulier les autorités sanitaires américaines à l'heure actuelle, c'est plus le bioterrorisme, non pas d'État, mais de groupe. Vous avez entendu parler en 1995 de cette secte japonaise qui avait lancé du gaz sarin dans le métro de Tokyo, ce qui avait causé plusieurs morts. Tous ces individus, heureusement, ont été arrêtés. Mais lors des perquisitions de la police au siège de cette secte, on a trouvé des milieux de culture, on a trouvé des stocks de toxines botuliniques, on a trouvé des cultures de bacilles du charbon, on a trouvé des drones, c'est-à-dire des petits avions télécommandés équipés de pulvérisateurs, et certains de ces membres ont avoué qu'ils étaient allés au Zaïre en 1992 pour obtenir des échantillons de virus Ebola. Donc vous voyez qu'il y a des fous sur Terre et que le bioterrorisme est quelque chose qu'il faut véritablement prendre en considération, sans parler d'une secte débile qui avait mis des salmonelles dans des restaurants dans l'Oregon aux États-Unis il y a 3 ans maintenant pour essayer d'influencer les résultats de la campagne électorale locale pour l'élection du maire. Alors, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être prises sur un mode humoristique, mais c'est possiblement pour le futur une modalité de développement de maladies infectieuses. Alors, je vais terminer cette conférence, peut-être un tout petit peu en retard, je fais de mon mieux, avec un certain nombre d'éléments qui sont, j'espère, des éléments d'espoir sur la possibilité de mieux maîtriser les infections dans le futur. Alors, le premier élément d'espoir, c'est le fait, et je peux vous le dire en quelques mots, que l'on comprend de mieux en mieux, grâce en particulier au progrès de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de la biologie intégrée, en particulier au niveau des modèles animaux, on comprend beaucoup mieux ce qu'on appelle la physiopathologie des infections, c'est-à-dire comment les infections se développent. On connaît maintenant comment les bactéries adhèrent, envahissent les cellules, je vous en ai parlé, comment elles croisent dans les tissus, comment elles entraînent des réactions inflammatoires, comment elles bloquent les signaux d'adaptation de l'hôte à ces pathogènes et les réponses immunitaires. Donc, connaissant mieux son ennemi, on peut mieux le combattre, et de plus en plus vont se développer ce qu'on appelle des molécules intelligentes qui vont cibler non pas nécessairement le micro-organisme lui-même pour le tuer, mais les effecteurs de la pathogénicité de ce micro-organisme pour empêcher qu'il développe la maladie et donc pour le rendre finalement, pour le désarmer. À partir de ces meilleures connaissances physiopathologiques, on arrive maintenant de plus en plus à concevoir de façon rationnelle des vaccins et des vaccins qui, pour certains d'entre eux, sont tout à fait innovants et tout à fait prometteurs pour le futur. L'autre élément qui est intéressant, et je vous en ai dit un mot tout au début, ça c'est simplement pour vous montrer des exemples, ça c'est un colibacille qui adhère aux microvillosités de l'intestin, vous voyez ces éléments qui permettent cette adhérence, cette adhésine, tous ces éléments-là sont connus sur le plan moléculaire, sont analysés dans leur construction, et tout ça peut être la source, bien entendu, de vaccins innovants, parce que si on peut immuniser contre ces facteurs, par exemple, on va empêcher l'adhérence de ces micro-organismes. Et juste pour vous montrer une belle image d'un sujet sur lequel on travaille, la Shigella, vous voyez ici une Shigella en train de rentrer dans une cellule de l'intestin. Vous voyez cette magnifique image de réorganisation de la surface de la cellule quand la bactérie rentre. Maintenant que nous connaissons les protéines que cette bactérie sécrète pour causer ce type de réaction cellulaire, on peut éventuellement concevoir des molécules qui les antagonisent ou des vaccins qui immunisent et qui vont finalement désarmer ce micro-organisme et l'empêcher d'être virulent. Alors l'autre élément que je vous ai mentionné rapidement tout à l'heure, sur lequel je reviens en une seconde, c'est qu'on a découvert ces dernières années, et je vous ai donné un chiffre, 16%, il est réel, que beaucoup d'infections, pathologies inflammatoires, mais surtout cancers en l'occurrence, étaient causées par des bactéries ou par des virus. Et vous avez ici l'exemple, en matière de pathologies inflammatoires et éventuellement cancéreuses, d'Helicobacter pylori, qui a été démontré dès le début des années 80 comme causant les gastrites chroniques, puis l'ulcère de l'estomac, puis éventuellement le cancer de l'estomac. Et ça a été deux médecins, Graham et Warren, en Australie, qui ont eu la persistance, l'obstination, je dirais, d'essayer de démontrer à la communauté scientifique que ce micro-organisme était véritablement en cause. Chlamydia pneumoniae, qui peut causer des formes graves d'athérosclérose, toujours dans le contexte inflammatoire. Chlamydia pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, qui sont éventuellement responsables de certaines formes graves d'asthme. Et puis, encore une fois, donc, ces 16% de cancers ayant une étiologie infectieuse. Chaque année, 1,5 million de décès par cancer pourraient être éventuellement évités si on protégeait contre ces infections. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit déjà, le cancer et le lymphome de l'estomac par Helicobacter pylori. Il y a des travaux, y compris dans notre institut, à l'Institut Pasteur, très actifs sur le développement d'un vaccin contre ce micro-organisme, car on protégerait là contre les lymphomes et les cancers de l'estomac. Le cancer du foie, qui est en grande partie lié au virus de l'hépatite B ou au virus de l'hépatite C. Si on pouvait vacciner la population mondiale contre le virus de l'hépatite B, on ferait disparaître probablement la moitié ou les deux tiers des cancers du foie. Et ça, c'est en cours, mais encore une fois, ça coûte cher, en particulier dans les pays en voie de développement. Et dès qu'on aura un vaccin contre l'hépatite C, ce sera pareil. Le cancer du col utérin causé par les virus papilloma, HPV, là aussi, le jour où on aura un vaccin contre ce type de virus, on pourra prévenir, en complément, bien entendu, du dépistage systématique que vous connaissez, la survenue de cancer utérin. Donc il y a un potentiel énorme dans ce domaine qui ne demande qu'à être utilisé et à être développé. Ça, c'est simplement pour vous montrer une belle image d'Helicobacter pylori, ce micro-organisme qui colonise la surface de l'estomac dans des conditions extrêmes. Le pH, l'acidité ici, est de 1. C'est quasiment comme vivre dans de l'acide chlorhydrique pur, ce qui vous montre un peu l'adaptabilité phénoménale de ces micro-organismes à certaines situations. Alors, les autres espoirs, ils sont dans le domaine du diagnostic. L'introduction de la biologie moléculaire, et en particulier, possiblement pour le futur, il y aura des problèmes de prix à résoudre, bien entendu, de ce qu'on appelle les puces à ADN, à haute densité, va permettre peut-être, et je vous le montre rapidement simplement sur une image qui vous montre ce type de puces ADN qu'on appelle des biopuces, qui sont comme des puces électroniques sur lesquelles sont mises ce qu'on appelle des oligonucléotides, qui permettent de piéger des ARN des bactéries et qui permettent pour le futur éventuellement d'imaginer en un test d'avoir à la fois le diagnostic du micro-organisme bactérien ou viral, pour une bactérie d'avoir la présence de ces gènes de pathogénicité, d'avoir la présence de gènes de résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que dans le futur, on va, grâce au développement technologique probablement, arriver à rationaliser tous ces éléments que je vous ai mentionnés dans les progrès en matière de connaissance des micro-organismes et des maladies infectieuses sous une forme qui va permettre de faciliter considérablement le diagnostic. L'autre élément, toujours dans les ouvertures et dans les espoirs, c'est que je vous ai dit au début qu'on n'avait pas trouvé de nouvelles familles d'antibiotiques depuis 20 ans, et c'est la réalité, et c'est un des grands problèmes à l'heure actuelle. Il est clair que tous les développements dont je vous ai parlé en matière de génomique, c'est-à-dire dans connaissance des génomes, en particulier des micro-organismes bactériens, fongiques et parasitaires, vont permettre de renouveler les approches et de faciliter, de favoriser la recherche de nouvelles cibles et de nouvelles molécules qui vont permettre d'aller attaquer les micro-organismes dans des sites de leur métabolisme en particulier où on n'avait pas même l'idée jusqu'à présent d'aller les attaquer. Donc on va trouver, grâce à des réseaux qui se forment à l'heure actuelle tout à fait intéressants entre les secteurs académiques, la grande industrie et les petites entreprises de biotechnologie, se forment des réseaux de recherche très cohérents qui vont permettre d'aboutir sûrement assez rapidement à la découverte de nouvelles cibles microbiennes et des molécules qui les inactivent, de systèmes qui vont permettre de cribler ces cibles, ce qu'on appelle les méthodes de high throughput, c'est-à-dire qu'en anglais, où on va pouvoir passer des dizaines ou des centaines de milliers de ces systèmes pour pouvoir trouver ces nouvelles molécules, et même des systèmes qui permettront d'éliminer très précocement des molécules potentiellement toxiques. Dans le domaine des nouvelles molécules antifongiques, par exemple, on pourra, connaissant le génome humain, éliminer immédiatement des molécules qui ont des séquences qui les apparentent à des produits qui sont produits par l'homme et donc éviter des réactions immunopathologiques ou autres. Donc il y a tout un élément de développement à l'heure actuelle que vous pouvez suivre d'ailleurs, qui va se faire dans le domaine de nouveaux agents anti-infectieux. On va voir des développements dans les vaccins. Et en fait, j'en terminerai en gros là-dessus, simplement pour essayer de vous dire deux choses. C'est-à-dire que le domaine des vaccins est en train de changer. En fait, il change de façon régulière et il change de deux façons. Une façon est qu'on a véritablement pris la mesure de la pathologie infectieuse, y compris dans les pays en voie de développement où elle reste, comme je vous l'ai dit, très prédominante. Et on rentre vraiment dans une période de tentative d'éradication des maladies. Donc il y a eu l'épisode variole, bien entendu, qui est l'exemple, le paradigme. Mais vous savez sans doute que l'OMS a mis en place depuis maintenant quelques années un programme qui s'appelle Polio 2000, alors ce sera probablement Polio 2002 ou 2004, qui consiste à essayer d'éradiquer la poliomyélite par la vaccination de l'ensemble de la planète. Ça c'est, on élargit, on vaccine tout le monde et on essaye d'éradiquer la maladie. Il faut savoir aussi que de nouveaux vaccins apparaissent. En particulier, est arrivé sur le marché il y a 2 ans un vaccin absolument extraordinaire qui permet de prévenir Haemophilus influenzae B, qui était la première cause de méningite chez le nourrisson dans les pays occidentaux, chez nous et bien entendu aussi dans les pays en voie de développement. Avec ce vaccin, qui est un vaccin qui est formé à partir des sucres de la capsule de ce micro-organisme associé à une protéine qu'on appelle un carrier ou une protéine porteuse, on arrive maintenant à éliminer complètement cette méningite de la population pédiatrique, y compris, bien entendu, de ce fait, les complications neurologiques, en particulier les surdités. Ces méningites étaient la première cause de surdité chez le nourrisson, au prix d'une vaccination qui, malheureusement, a un prix, c'est le cas de le dire, puisque ce type de vaccin à haute valeur ajoutée coûte de l'ordre de 40 dollars, c'est-à-dire de 250 ou 300 francs la dose, alors que son utilisation, par exemple, dans un pays en voie de développement, justifierait un prix de l'ordre d'un demi-dollar, c'est-à-dire de l'ordre de 2,50 francs ou 3 francs. Donc vous voyez qu'il y a encore du progrès à faire pour passer de ces vaccins high-tech qui s'avèrent être extrêmement performants dans nos populations de pays industrialisés pour pouvoir en faire bénéficier les pays en voie de développement. Et il y a un rôle majeur qui est en train de jouer. Là aussi, il y a une note d'optimisme par un certain nombre d'organismes non gouvernementaux, en particulier des organismes même comme le Rotary ou comme la Fondation Bill Gates, qui donnent des sommes hors de proportion avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent pour aboutir au transfert de ce type de vaccin dans les pays en voie de développement. Car après tout, il n'y a pas de raison que les enfants dans ces régions ne bénéficient pas des mêmes thérapeutiques et des mêmes préventions que ceux qui vivent dans nos régions à nous. Donc voilà, il y a un certain nombre de vaccins attendus dans le futur, à moyen terme, contre les maladies respiratoires, tuberculose, pneumocoque, virus respiratoire syncytial, tout ça, ce sont des maladies respiratoires importantes à prévenir, vaccins contre les maladies diarrhéiques, choléra, dysenterie bacillaire, éthèque, rotavirus, tout ça, dans les 10 ans, il y aura du nouveau et probablement des choses assez spectaculaires. Et puis, sur le long terme, bien entendu, le VIH, le virus de l'hépatite C et le paludisme, ça reste des éléments très, très importants sur notre agenda. Alors, tout ça, ça ne peut pas se concevoir, et je terminerai là-dessus, sans un schéma global. Alors ça, je ne vous ai pas mentionné, excusez-moi. Ces deux petits garçons n'ont pas de chance. La poliomyélite a été éradiquée du continent sud-américain. C'est probablement parmi les dernières victimes de la maladie. Vous voyez simplement cette paralysie flasque qui nécessitait ces appareillages absolument monstrueux. La poliomyélite n'existe plus du fait de la vaccination de l'opération Polio 2000. Vous voyez les chiffres ici. En 88, il y avait encore 35 000 cas recensés sur la planète de poliomyélite chaque année, ce sont les chiffres officiels de l'OMS. En 1998, il n'y en avait plus que 4000. Alors c'est sûr que c'est toujours les derniers les plus difficiles. Il va falloir encore probablement 5 ou 6 ans pour éradiquer totalement la polio, mais d'ici 2004 à 2005, la polio sera probablement un vieux souvenir. Une chose que je voulais vous dire malgré tout, et on a souvent ces débats en matière de vaccins, vous savez qu'il y a des ligues qui sont souvent opposées à l'utilisation des vaccins, le fait que le vaccin est éventuellement une atteinte à la liberté humaine, et ainsi de suite. Je voudrais simplement vous montrer une courbe que je prends toujours en exemple. C'est la situation de la coqueluche en Angleterre. Dans les années 45-50, on a commencé à vacciner contre la coqueluche en Angleterre, avec un vaccin qui, certes, n'était pas très, très bien toléré, qui donnait des petites réactions, éventuellement, de temps en temps, une fièvre assez élevée et des éléments encéphalitiques chez certains enfants, très rarement, malgré tout. On a vu la morbidité descendre très rapidement et la mortalité encore plus rapidement. Et puis, ce vaccin, il n'était pas très bien toléré. On a décidé d'arrêter son utilisation. Donc la vaccination systématique, vous voyez, c'est ces pointillés qui s'élargissent là, a été arrêtée à partir du début des années 60. Et ce qu'on a vu à partir de 70-75, c'est ça, c'est que la coqueluche a redémarré immédiatement. C'est-à-dire qu'une maladie qui était quasiment en voie d'éradication, du fait de la vaccination, a redémarré dès qu'on a levé le pied, dès qu'on a arrêté la vaccination. Donc il faut rester prudent, il faut rester vigilant, et je pense que cet élément-là est suffisant pour inciter à ne pas arrêter, pour des raisons parfois un petit peu émotionnelles, certaines vaccinations. Alors l'avenir dans ce contexte-là, en dehors de tous les outils, de toutes les nouveautés thérapeutiques, diagnostiques et autres, il n'existera en matière de ce qu'on peut appeler le contrôle et la maîtrise des maladies infectieuses qu'à condition qu'on arrive à un concept global de santé publique, non seulement à l'échelon français, européen, mais à l'échelon de la planète. C'est-à-dire qu'on puisse mettre en place des méthodes de diagnostic précoce de la survenue de nouvelles infections, c'est ce qu'on appelle la veille, d'avoir la mise en place d'un réseau global d'informations et d'alertes, et ça, à l'ère de l'Internet, c'est franchement pas un problème, ça nécessite simplement des investissements, avec des procédures claires d'intervention sur le terrain. Ça nécessite des réseaux nationaux de santé publique qui s'appuient sur des centres de référence, c'est ce qu'on a en France en particulier avec l'Institut de Faille Sanitaire et les centres de référence pour les micro-organismes infectieux, dont on a une grande partie à l'Institut Pasteur, et d'une coordination continentale et intercontinentale en coopération avec les grands organismes internationaux comme l'OMS et les organisations non gouvernementales qui jouent un rôle de plus en plus important en matière de veille sanitaire et d'alerte sur le terrain. Des organismes comme Médecins Sans Frontières jouent un rôle essentiel. Et puis, bien entendu, notre réseau des instituts Pasteur qui est vraiment positionné en sentinelle pour la veille dans ce type de région. Tout ça, ça ne peut pas se faire si les gens ne sont pas formés. Et ça, c'est peut-être un petit message pour les jeunes ou les étudiants dans cette assemblée. Je crois qu'il faut qu'on crée très rapidement, qu'on renforce des écoles de santé publique qui assurent une formation de très haut niveau des personnes à assurer ce type de tâches. Et je pense que s'il y a un métier exaltant pour des jeunes à l'heure actuelle, c'est bien d'essayer de se lancer dans des professions qui les amèneront à être impliqués dans le contrôle et la maîtrise de ce type de maladie. Alors je terminerai sur un mot, parce que sans ce mot-là, il n'y aura jamais de contrôle et de maîtrise des maladies infectieuses. C'est bien entendu l'hygiène, que ce soit l'hygiène individuelle, que ce soit l'hygiène collective. Au-delà des antibiotiques, au-delà des vaccins, c'est quand même la mise en place du concept de l'hygiène qui a été généré encore une fois par Pasteur à la fin du siècle dernier, qui a permis les premières étapes du contrôle des maladies infectieuses. Et bien entendu, un charge pour les jeunes de tout ce faire très, très attention à tout ce qui concerne les préventions des maladies sexuellement transmissibles. Tout ça fait encore partie d'un concept global de prévention. Donc je pense que je vais arrêter ici, avec des excuses pour avoir été probablement un tout petit peu trop long, mais encore une fois, les maladies infectieuses en 50 minutes, ça me paraissait une gageure difficile à tenir, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.
Donc on va passer tout de suite aux questions. Je vois pas. Ah, j'ai une question là. Tout de suite.
Oui, merci pour cette conférence. Vous avez parlé d'un colibacille qui était lié à l'intestin, au gros intestin, je crois. Est-ce qu'il en est de même pour l'intestin grêle? Je pense à la maladie de Crohn.
Alors, bon, c'est une question qui est très, très importante et intéressante. C'est ce que vous posez ici, c'est la question de, en fait, des causes infectieuses de certaines maladies inflammatoires aiguës ou chroniques de l'intestin. Pour l'instant, je dois vous avouer qu'il n'y a pas de preuve formelle qu'il y ait un micro-organisme unique, identifié, qui cause la maladie de Crohn ou qui cause des maladies un peu similaires au niveau du côlon, comme ce qu'on appelle la rectocolite hémorragique. Alors, il y a eu des travaux récents qui ont éventuellement impliqué, en particulier de deux équipes françaises, qui ont éventuellement effectivement impliqué possiblement un colibacille, mais ce colibacille n'est pas encore suffisamment caractérisé, et je pense qu'il faut encore plus d'études épidémiologiques, si c'est à ça que vous vous référiez, pour véritablement le démontrer. Mais la question, on peut l'élargir un petit peu, et effectivement, le colibacille est un superbe exemple, un peu de ce que j'expliquais à un moment, de la façon dont les pathogènes se construisent. C'est-à-dire que ces gènes qui sont amenés à ces micro-organismes par transfert horizontal, éventuellement par des bactériophages, sur la base de ce génome de colibacille de base, peuvent, quand ils sont d'une nature donnée, amener à la colonisation de l'intestin grêle. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les colibacilles entérotoxinogènes qui donnent des diarrhées comme le choléra, peuvent donner des phénomènes de colonisation de l'ensemble de l'intestin, ce qu'on appelle les colibacilles entéropathogènes, peuvent donner, sous réserve de recevoir en plus des bactériophages qui leur permettent de coder une toxine, ces colis entérohémorragiques dont j'ai parlé, ces colis qui sont présents dans la viande et qui donnent des diarrhées sanglantes chez les jeunes enfants avec des insuffisances rénales aiguës. Et puis les mêmes types de colibacilles, sous réserve d'avoir des blocs de gènes différents, vont aller coloniser l'appareil urinaire, donner des infections de la vessie ou des infections des reins. Donc vous voyez qu'avec une espèce bactérienne identique, on a, du fait de ces gènes supplémentaires qui codent pour des facteurs de pathogénicité qui permettent une adaptation à différents niveaux, aux différents organes, des pathologies différentes. Et du coup, il ne serait pas surprenant que dans certaines pathologies inflammatoires, comme la maladie de Crohn, on trouve une espèce très particulière de colibacille qui, du fait de sa capacité intrinsèque de pathogénicité, va donner ce type de maladie.
Une question là. Oui. Levez-vous, s'il vous plaît.
Oui, en dehors du système des vaccinations, comme système de stimulation immunitaire, est-ce que vous voyez d'autres systèmes que les vaccinations ?
Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Disons que la vaccination, son concept est celui de la protection spécifique. Alors, on peut imaginer effectivement un certain nombre d'approches préventives qui soient des approches plus larges, disons d'immunostimulation, de stimulation du système immunitaire, de façon à ce que lorsqu'un micro-organisme pathogène arrive, l'appareil immunitaire soit déjà stimulé dans ce qu'on appelle maintenant les éléments de la défense innée, c'est-à-dire de la défense non spécifique, de façon à les détruire. Alors il y a effectivement aussi des tentatives, j'en ai pas parlé ici parce que malheureusement j'avais pas le temps, qui consistent à essayer d'intervenir pour stimuler les muqueuses, par exemple, et les mettre à un niveau plus élevé de résistance à la colonisation par des pathogènes. On peut même, maintenant qu'on commence à connaître les bases de la réponse immunitaire elle-même, en particulier ce qu'on appelle les cytokines, c'est-à-dire les médiateurs qui régulent la fonction des cellules tueuses qui sont dirigées contre les bactéries, les virus, les parasites, on peut imaginer d'intervenir aussi à ce niveau-là. Mais ça reste quand même à l'heure actuelle des choses qui sont encore très en amont des applications en matière de thérapeutique ou de prévention. Pour l'instant, le schéma le plus clair est quand même celui de la protection de nature vaccinale.
Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pourriez me permettre, me donner des raisons de rassurer mon père qui s'est fait poser un régulateur cardiaque et qui a attrapé l'hépatite C? Est-ce qu'il y a un moyen de le rassurer?
Un moyen de le rassurer, ça dépend où vous situez le stade de l'infection. Il est clair que pour les personnes qui ont été infectées par ce virus, la seule façon de les rassurer, c'est d'essayer de leur dire qu'il y a des travaux à l'heure actuelle qui se développent en matière de tentatives thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on va avoir, je pense, comme on les a eues pour le virus HIV, des médicaments qui vont être de plus en plus efficaces contre le virus de l'hépatite C. Il y a déjà l'interféron alpha, il y a déjà un certain nombre de molécules antivirales, mais la recherche va sûrement permettre d'amener des molécules, en particulier ce qu'on appelle des antiprotéases, rapidement, je pense, dans l'année qui vient sur le marché. Donc la prise en charge thérapeutique des patients infectés va sûrement se faire de plus en plus efficacement. Maintenant, il est clair que la meilleure approche de l'infection par le virus d'hépatite C, c'est la prévention. Il semble quand même que, en matière d'hépatite C, le nombre de nouveaux cas est diminué considérablement. Mais il reste un trou noir. Il faut savoir que l'épidémiologie de la transmission du virus de l'hépatite C n'est pas aussi simple, n'est pas aussi claire, je dirais, que celle du VIH, où on connaît véritablement bien les mécanismes de transmission sexuelle, produits sanguins et autres. Il y a encore dans la transmission du virus de l'hépatite C un trou noir, c'est-à-dire une zone où certaines personnes ont été infectées, on ne sait pas du tout comment. Alors là, vous avez une cause possible, qui est une cause de transmission hospitalière. Sans doute, il y a quelques années, je pense que ces situations-là sont devenues, à l'heure actuelle, rarissimes. Mais maintenant qu'il est infecté, il est certain que la seule chance, c'est maintenant l'arrivée de nouvelles drogues.
Deux dernières questions très rapides, une première là.
Oui.
Levez-vous, s'il vous plaît.
Ça y est, je vous ai vu, c'est bien.
Oui, vous avez fini sur la promotion en promouvant l'hygiène. Mais bon, c'est votre travail. Vous avez parlé de mesures curatives pour l'ensemble du reste du temps. Et notamment, je me souviens de l'épisode du cathéter et du biofilm qui serait un milieu passionnant à étudier. Alors, si on met un cathéter stérile, donc si on fait de la prévention, si on fait de l'hygiène, vous n'aurez plus de milieu passionnant à étudier.
J'ai essayé. C'est très bien d'essayer de mettre une note d'humour dans tout ça. Je crois que j'ai essayé de vous expliquer tout de même que, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours des maladies infectieuses. Donc il y aura toujours des choses intéressantes et passionnantes à étudier. Alors, ne nous méprenons pas, l'intérêt, la passion, ça fait partie de la recherche, bien entendu, mais enfin, il y a aussi des applications à tout ça. Si on essaye d'analyser et de comprendre ces processus, c'est aussi pour essayer de les prévenir ou de les traiter. L'exemple du cathéter est effectivement un exemple très très bien choisi par vous. Si on arrivait à prévenir l'introduction de micro-organismes, on n'aurait plus ces problèmes-là. On y arrive, on y arrivera de plus en plus. La prévention de ces infections va se faire de mieux en mieux. Mais il faut savoir qu'une peau, la décontamination absolue d'une peau est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement délicat, car on ne l'imagine pas, bien sûr, c'est des microbes, on ne les voit pas par définition, mais les micro-organismes sont partout. Ils sont sur la peau, ils sont dans les replis de la peau, ils sont dans les follicules pileux, ils sont parfois très profondément insérés au niveau des follicules pileux. Il y a une symbiose quasiment, ou en tout cas un commensalisme entre ces micro-organismes et la peau, et probablement les deux y trouvent leur compte. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir la certitude absolue qu'une zone préopératoire a été totalement décontaminée. Donc les risques, d'une certaine mesure, ils existeront toujours. Et finalement, les cathéters, on sait qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps. On sait qu'au bout de 48 heures, 72 heures, il faut probablement les changer, car, qu'on le veuille ou non, qu'on ait pris toutes les précautions quasiment chirurgicales pour les implanter, il y a un risque d'infection. Et il faut le savoir, ça fait partie des risques.
Une toute dernière question tout en haut, là.
Rapide, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je ne sais pas si je pose ma question d'après une croyance ou une vérité, mais est-ce que l'état mental d'une personne ou l'état psychique, par exemple, si cette personne est déprimée, contribue beaucoup à la faiblesse, à la prise de position des... Vous comprenez ma question ?
Si je la comprends sous l'angle que je vais dire, vous me direz si je me trompe. Je crois que vous avez absolument raison de poser cette question, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de données objectives. Il n'est pas du tout impossible que des individus soient plus fragiles aux infections à un moment ou un autre de leur existence, et qu'en particulier des épisodes dépressifs puissent fragiliser. Il y a tout un domaine à l'heure actuelle qui se développe de l'étude justement de l'influence du système nerveux sur le système immunitaire, qui peut effectivement à un moment ou à un autre donner des bases rationnelles à ce type de situation. Non, vous avez raison de poser cette question, mais il n'y a rien. prouvé sérieusement, solidement, si vous voulez.
Philippe Sansonetti, je vous remercie.